Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
Les autres titres avec vous.
Ce soir à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, les bars et les restaurants fermeront à 23h. Décision du préfet de région hier soir alors que les chiffres de l'épidémie s'envolent dans la région. Polémique sur la gratuité des masques, attente interminable pour se faire tester. Des ajustements sont nécessaires à quelques jours de la rentrée. Sa vie compte. Le témoignage bouleversant aux États-Unis de la sœur de Jacob Blake, nous l'entendrons. Et puis Lionel Messi qui claque la porte du Barça après 20 ans au sein du club catalan.
Et votre invité, Léa, à 7h50.
C'est une rentrée inédite et masquée pour les universités d'été du MEDEF cette année. Les chefs d'entreprise sont-ils inquiets? Très inquiets, très inquiets, alors qu'on va affronter la pire crise économique depuis des décennies. On reçoit le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, sera avec moi à 7h50.
À tout à l'heure.
France Inter. La menace planait depuis quelques jours en raison des chiffres de l'épidémie à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Un taux d'incidence très supérieur à la moyenne nationale, avec 177 cas de Covid pour 100 000 habitants à Marseille contre 33 pour 100 000 dans l'Hexagone. Une situation préoccupante selon les mots du préfet de région. Dès ce soir donc, le port du masque sera obligatoire dans toute la ville pour les plus de 11 ans. Et les bars, les restaurants, les épiceries de nuit devront faire fermer leurs portes à 23h. Alors comment la nouvelle annoncée hier soir a-t-elle été accueillie sur la Canebière? Reportage de Renaud Candelier.
Paco est serveur au Havana Café sur le Vieux-Port. Ambiance cubaine et cocktail jusqu'à tard le soir. Évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour ce bar.
C'est le soir qu'on travaille. Nous fermons à 23h et nous mettent la corde au cou. Hein.
Ce serveur a l'impression de payer un peu pour le comportement des gens qui ne respectent pas l'obligation de porter le masque en extérieur sur le port.
Et vous voyez, là vous regardez, le masque est obligatoire sur le Vieux-Port, sur 10 personnes, et il y en a 15, ils n'ont pas.
À quelques mètres, un autre bar de nuit, l'Exit Café, va peut-être devoir changer sa formule. Il faisait happy hour de 17h à 22h. Ambiance festive, mais en terrasse et très cadrée, explique Malco, le directeur.
Ça nous pénalise complètement, surtout qu'on estime être des bons élèves. Si vous regardez autour de l'établissement, on a un affichage, on demande aux gens de porter les masques, on a vraiment affiché tout ça.
Voilà pourquoi tous les patrons d'établissement ne sont pas opposés à cette nouvelle limite horaire. Henri Elbaz tient le restaurant le 13 et il est favorable à ces mesures de prévention.
Ce que le gouvernement nous demande, il faut les appliquer. C'est ce qui nous permettra de pouvoir rester ouvert et continuer à travailler.
À Marseille, le port du masque devient obligatoire dans toute la ville.
Et cette fermeture entre 23h et 6h du matin restera en vigueur jusqu'à la fin du mois de septembre dans tout le département donc des Bouches-du-Rhône. Plus de 3300 nouveaux cas détectés en France au cours des dernières 24 heures, 16 décès supplémentaires enregistrés et le nombre de malades en réanimation est en très légère hausse. Ils étaient 410 hier soir. Le dépistage à grande échelle fait partie de la stratégie de lutte contre l'épidémie. 700 000 tests sont réalisés chaque semaine, mais la demande ne cesse d'augmenter. À l'approche de la rentrée, les laboratoires se disent débordés, les files d'attente s'allongent. Une réunion est prévue aujourd'hui au ministère de la Santé. Sophie Bécherel.
Depuis le 25 juillet, quiconque peut, sans ordonnance, se faire tester dans un laboratoire de ville, qui plus est, sans avancée d'argent. Résultat, un engorgement des laboratoires qui peinent à tenir le délai de 24 heures pour fournir le résultat du test. Lionel Baran est le président du syndicat des jeunes biologistes médicaux.
Dans certaines régions, on arrive encore à tenir les 24 heures, mais de plus en plus de régions et de laboratoires prennent le bouillon parce que la stratégie qui a été décidée ne cible pas toujours les bonnes personnes à dépister.
Les campagnes de dépistage massives sont montrées du doigt, les bons envoyés par centaines de milliers aux habitants de certains départements ou encore les tests généralisés décidés par les agences régionales de santé. Pour Lionel Baran, il faut prioriser les publics.
Il faudrait faire à toutes personnes qui ont des symptômes, puisqu'il y a encore des personnes qui ont des symptômes et qui ne se font pas dépister parce que c'est trop compliqué, que c'est trop loin ou qu'ils n'ont pas le rendez-vous à temps. Il y a aussi les personnes qui sont en contact avec des gens qui sont positifs, et enfin les personnes qui sont dans des situations particulières à risque. Je pense notamment aux gens qui reviennent de pays dans lesquels l'épidémie fait rage.
Pour tester au-delà de 700 000 personnes par semaine, jauge déjà atteinte, il faudrait plus de bras, des étudiants en médecine, des pompiers, des infirmiers. Quant à l'analyse des prélèvements, si les laboratoires de ville sont saturés, on pourra toujours se tourner vers la vingtaine d'hôpitaux qui ont reçu un automate d'analyse chinois. Ils tournent en sous-régime depuis que le nombre de malades a drastiquement chuté.
Autre élément essentiel de la lutte contre l'épidémie, le masque, obligatoire dans les entreprises à partir du 1er septembre. septembre et dans les collèges et les lycées à la rentrée. Des masques qui seront à la charge des familles. Le Premier ministre Jean Castex, invité exceptionnel du 7-9 d'Inter à partir de 8h20, devrait très probablement le confirmer tout à l'heure. Des masques seront cependant délivrés gratuitement aux familles les plus précaires et plusieurs collectivités locales ont également promis d'en distribuer. L'Île-de-France, l'Occitanie et les Hauts-de-France aux lycéens, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Alpes-Maritimes, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, le Tarn et la Seine-Maritime aux collégiens. Et quid des masques en maternelle? Les syndicats montent au créneau, Sonia Princé.
Jusqu'à début juillet, les enseignants de maternelle portaient un masque. Le nouveau protocole sanitaire publié au cours de l'été prévoit au contraire que le masque n'est plus obligatoire en maternelle pour les personnels, mais simplement recommandé, contrairement aux écoles élémentaires. La décision est la même pour les crèches, car on considère que les petits seraient moins contagieux et qu'ils ont besoin de voir le visage de l'adulte. Mais à partir du moment où le Haut Conseil à la Santé publique estime qu'il faut porter le masque dans les espaces clos, il n'y a pas de raison d'exclure les écoles maternelles, selon Guylaine David, secrétaire générale du SNUIPP, le principal syndicat du primaire.
Pour le moment, il est seulement recommandé pour les enseignants de maternelle, il n'est pas obligatoire. On sait que dans les écoles maternelles, nous avons beaucoup de personnel et il faut absolument que ces enseignants, ces personnels puissent porter le masque pour que l'on évite aussi des contaminations entre adultes.
Car c'est bien la crainte des professeurs des écoles qui ont à leur côté dans la classe des ATSEM, les agents territoriaux des écoles maternelles. Dans des classes où il est quasiment impossible de faire respecter les gestes barrières par des enfants aussi jeunes, les adultes souhaitent se protéger et ils espèrent qu'ils recevront des masques s'ils font le choix d'en porter.
Le ministre de l'Éducation nationale devrait répondre à toutes ces interrogations cet après-midi lors de la traditionnelle conférence de presse de rentrée. Les premières condamnations après les violences dimanche soir en marge de la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions. La peine la plus lourde, 10 mois de prison ferme et incarcération immédiate a été prononcée à l'encontre d'un homme au casier judiciaire déjà bien rempli et reconnu coupable de tentative de vol et effraction. Un autre qui avait lancé un pavé sur le casque d'un CRS a écopé de 8 mois ferme avec là encore incarcération immédiate.
Il est 7h07 dans le Wisconsin. La famille de Jacob Blake lance un appel au calme.
Jacob Blake, c'est cet Afro-Américain de 29 ans, grièvement blessé par 7 balles tirées à bout portant dans son dos par 2 policiers dimanche dernier sous les yeux de ses 3 jeunes enfants. L'homme restera sans doute paralysé. Après 3 nuits de manifestations émaillées d'incidents dans les rues de Kenosha, sa mère appelle à l'unité et au calme. Sa plus jeune sœur, Megan Belcher, a de son côté exprimé sa colère et son indignation.
Quand vous prononcez son nom, Jacob Blake, dites bien que c'est un père de famille, un cousin. Il est aussi un fils. Rappelez qu'il est un oncle. Mais surtout, dites bien qu'il est un homme. On parle là d'une vie humaine. Sa vie compte. Tellement de gens m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient désolés que ce soit arrivé à ma famille. Mais ne soyez pas désolés, parce que ça fait longtemps que ça arrive au mien. Et à chaque fois qu'un Afro-Américain est victime de ça, je pleure. Il n'y a rien de nouveau. Je ne suis pas triste, pas désolée. Je suis en colère. Et j'en ai assez. Ça fait des années que je vois la police assassiner des gens comme moi. Je ne veux pas de votre pitié. Je veux un changement.
Témoignage recueilli par Grégory Phillips. Le divorce est consommé entre Roman Polanski et l'Académie des Oscars. Le cinéaste avait saisi la justice contre son exclusion de la prestigieuse Académie. Mais le tribunal de Los Angeles vient de le débouter. La juge a estimé que son exclusion était fondée. Le réalisateur franco-polonais a fui les États-Unis il y a 40 ans après avoir plaidé coupable de détournement de mineurs. Divorce consommé également entre Lionel Messi et le Barça. Coup de tonnerre hier soir dans le monde du ballon rond. L'Argentin qui n'a jamais porté d'autre maillot que celui du FC Barcelone demande à quitter le club un an avant la fin de son contrat. Pourquoi, après 20 ans, veut-il donc quitter son club de toujours? Élément de réponse avec Louis de Bergevin.
Les histoires d'amour finissent mal en général et celle-là ne devrait pas déroger à la règle. Lionel Messi a vécu une saison catastrophe au FC Barcelone, aucun trophée et une fin humiliante avec la défaite 8-2 face au Bayern Munich en Ligue des Champions il y a 10 jours. Ça c'est pour le sportif parce qu'en dehors du terrain, Lionel Messi entretient des relations exécrables avec la direction du club. Il est accusé d'être à l'origine des maux du Barça. Il avait d'ailleurs gelé les négociations pour une prolongation de contrat. Le sien se termine donc dans un an. Mais l'Argentin a une clause qui lui permet de quitter librement le club au 10 juin. Et avec la saison perturbée par le coronavirus, il espère encore en profiter. Sinon, il coûterait 700 millions d'euros au club qui voudrait l'accueillir. Le FC Barcelone se raccroche à cette clause, toujours valable selon lui. Nous souhaitons qu'il termine sa carrière ici, a réagi le Barça. Le départ de Lionel Messi pourrait donc être un long bras de fer.
Et déjà sur les rangs pour accueillir l'Argentin, les deux clubs de Manchester, l'Inter Milan et le PSG, la bataille s'annonce effectivement assez rude. Et puis, demi-finale dames ce soir en Ligue des Champions entre le PSG et l'OL. Coup d'envoi de la rencontre à 20h à Bilbao, en Espagne. L'équipe qui s'imposera ce soir affrontera dimanche en finale les Allemands de Wolfsburg, qui ont éliminé hier soir les Espagnols du FC Barcelone 1-0. Enfin, c'est une conséquence de l'épidémie de coronavirus à laquelle on n'avait pas forcément pensé, mais somme toute assez logique. Les femmes se maquillent de moins en moins, particulièrement touchées le rouge à lèvres, difficilement compatible, c'est vrai, avec le port du masque. Seul le mascara semble tirer son épingle du jeu. Enquête signée Sébastien Sabiron.
Bonjour madame, est-ce que vous portez du rouge à lèvres par exemple ?
Non, plus rien. Avec le masque, non, pas vraiment.
Plus du tout.
Dans les rues commerçantes de Paris, les sourires s'effacent derrière les masques et le rouge à lèvres aussi dans la plupart des cas.
Ça sert à rien pour moi, parce qu'on est tout le temps caché, on cache le nez, la bouche, donc...
J'ai arrêté de porter du maquillage tout simplement et ça va très bien comme ça aussi.
On accentue un petit peu plus sur mettre un peu plus de mascara, communiquer notre sourire par le regard.
Selon une étude IFOP post-confinement, les femmes sont deux fois moins nombreuses à se maquiller quotidiennement qu'il y a 3 ans. Confirmation dans une parfumerie parisienne.
Déjà, on a moins de clients. Et puis, tout ce qui est fond de teint ou rouge à lèvres, on vend très très peu. Ça fait des taches sur le masque et des taches autour de la bouche aussi parfois.
La crise sanitaire semble avoir accéléré la tendance déjà bien ancrée du no make-up, pas de maquillage du tout. Jean-Philippe Dubrulle, directeur d'études à l'IFOP.
C'est pas un hasard si les femmes de moins de 25 ans sont celles qui sont le plus en pointe sur le no make-up, parce que c'est un public qui cristallise la pression sexuelle au quotidien dans la société. Ce sont les femmes les plus victimes de harcèlement de rue. Il y a une conscience accrue par rapport aux générations précédentes des contraintes qui pèsent sur elles et donc un rejet de ces mêmes contraintes.
Selon l'Institut de sondage, 44% des femmes ne portent plus de rouge à lèvres du tout, mais le lipstick n'a peut-être pas dit son dernier mot.
Est-ce que vous pensez que c'est la fin du rouge à lèvres ?
Oh non, les clientes, elles aiment trop ça.
Vous avez reconnu Daniel Balavoine.
Pardon, j'avais la tête ailleurs. Mille excuses Agnès Soubiran et merci.